qui apparemment est un pays entre guillemets, sans guillemets, pauvre, eh bien on n'est plus maître dehors Monsanto. Alors donc ça m'a amené à me dire, eh bien, je vais m'interroger là-dessus. Et puis donc c'était autour de la question du coton, puisque ce pays est producteur de coton. Donc voilà, je me suis dit, eh bien, voyons un peu comment ça se passe. Et puis bon, en parlant, je dis, bah, tiens, mais c'est intéressant. Donc voilà, je suis ni agronome, ni spécialiste de chimie, mais je me dis qu'après tout, et ça aussi, ça me paraît important, que les citoyens s'emparent des questions, parce que si on laisse les questions uniquement aux gens qui sont experts, vous savez que les experts sont souvent en relation pour alimenter leur laboratoire avec les entreprises qui sont capables de les aider à financer leurs recherches. Et puis, les entreprises ne financent leurs recherches que si elles sont intéressées directement par l'affaire. Et il se trouve qu'au Burkina Faso, on a la même problématique. Mais je me suis dit, cette problématique-là, elle existe aussi chez nous, avec des laboratoires, parce que dans un laboratoire, pour avoir des ressources, des États, tout simplement être subventionné par l'État français ou par l'Europe, il faut par ailleurs être subventionné par d'autres sources. Donc finalement, on est dans un espèce de système dans lequel il y a toujours quelque part un lobby industriel qui veut nous passer sa marchandise. Et là, c'est aussi le cas. Donc, je me suis dit, bien, regardons cette question Monsanto, le coton OGM au Burkina Faso, un peu comme un cas d'école, si vous voulez. Voilà. Un cas autour duquel on peut réfléchir. Et puis, il se trouve aussi que derrière, entre guillemets, un cas d'école, il y a des paysans qui ont dû souffrir de mauvaises, enfin, disons, des récoltes un peu moins bonnes, des revenus un peu moins importants. Donc finalement, quelque chose qui me paraissait intéressant. Donc, premier flash, si vous voulez, c'est on apprend à la télévision et à la radio burkinabé que le gouvernement a fait volte-face et que d'ici 3 ans, donc ça c'était il y a 3 ans, Monsanto devrait être éliminé de sa place de seul fournisseur de semences de coton au Burkina Faso. Donc, Monsanto dehors. Donc voilà, ça c'est voilà la question. Et je me suis dit, tiens, mais au fait, pourquoi au Burkina il y a du coton? Pourquoi il y a Monsanto? Donc c'est un peu cela dont je vais vous parler. Donc revoir un peu, situer le problème, et puis après voir comment les choses se sont passées, et puis après bien, on en discutera. Voilà. Donc la première question, c'est comment on en est arrivé à cela. Donc au Burkina Faso, volte-face, c'est la fin du coton OGM, sous la pression de la société civile, des parlementaires, du gouvernement. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant parce que d'habitude, ils ne sont pas toujours d'accord. Et donc, retrait total du coton BT. On en est arrivé là. D'abord, pourquoi il y avait du coton au Burkina? Alors, parce qu'effectivement, quand on parle de l'agriculture de ces pays, on se dit, finalement, l'agriculture a pour objectif principal de nourrir les gens. Et puis, pourquoi du coton? Et du coton, en deux tiers de la production des petits paysans, ce sont les productions vivrières, mais même pour eux, c'est indispensable d'avoir un tiers de production de coton. Alors, je me suis dit, tiens, au fait, pourquoi? Alors, il y a un héritage historique sur lequel je ne reviens pas, mais vous savez que le coton était une culture obligatoire au temps de la colonisation. Le Burkina a pris le relais français et au Burkina, le Burkina, en tant qu'État, à un moment donné, avait des ressources financières essentiellement données par l'exportation du coton. Donc, une des raisons pour lesquelles il y a du coton au Burkina, c'est parce que c'est une ressource financière très importante pour l'État. Et deuxième chose, pour chaque producteur, c'est aussi quelque chose de très très important, puisque une partie de ses revenus, lorsqu'il doit financer l'école, quelques produits de santé, améliorer sa maison, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des échanges financiers, il faut avoir de l'argent. Et la culture de rente ou la culture qui apporte de l'argent, c'est lorsqu'on vend du coton. Donc il y a du coton et depuis longtemps. Alors traditionnellement, le coton était antérieurement vendu à la France, qui avait une industrie textile. 1970, délocalisation des industries textiles. Et que faire du coton burkinabé? Eh bien, il se trouve que le coton burkinabé avait une très grande qualité. Il avait des fibres longues et il avait une couleur optique qui faisait que c'était un coton qui, sur le plan mondial, avait une très, très bonne cote. Donc, une bonne filière. Mais ceci est un peu l'aspect, disons, de vitrine, l'aspect positif, mais il y a une crise qui survient dans les années 90 déjà. Alors, une crise financière. Le coton vendu par le Burkina, il est vendu en dollars. Mais par contre, les intrants achetés par le Burkina, ils sont achetés, eux, en euros, en francs, en 1990, ou en euros. Donc déjà, il y a une petite distorsion. Le dollar s'affaiblissant, le coton vendu étant payé en dollars, donc là, il y a des revenus qui sont moins bons. Mais, par contre, le coton trouve toujours preneur puisqu'il est de bonne qualité. Mais, il y a aussi des écarts techniques. Lorsque un Burkinabé traite le coton et cueille les capsules de coton, eh bien, il traite en une journée 80 kg de coton, mais un dépiqueur au sud des États-Unis qui travaille normalement à la machine, on a 800 kg de graines de coton à l'heure. Donc, sur le plan technique et sur le plan mondial, lorsqu'il y a le problème financier, puis le problème technique, une heure de travail aux États-Unis et au Burkina, ça n'est pas la même chose. Et il est évident que là, le coton burkinabé ne tient pas la route. Et surtout, il y a un autre élément qui est intervenu au tournant des années 2000 qui va renforcer la crise, c'est qu'il y a sur le plan international ce qu'on appelle les programmes d'ajustement structurel établis par la Banque mondiale, établis par la volonté de faire du commerce mondial, de libéraliser les marchés, de telle sorte que là où le coton burkinabé était un peu protégé, au moins dans leur propre pays, le coton burkinabé, il était aussi utilisé au Burkina. Et lorsque on fait disparaître les frontières, la filière cotonnière burkinabé, elle aussi, est atteinte, puisque les chemises en coton qui venaient de Chine étaient bien moins chères que les chemises ou les vêtements ou les cotonnades qui étaient fabriquées par Facotex, c'est-à-dire l'usine du Burkina. Donc là, un autre élément de crise. Et puis il y a, et c'est là qu'on en vient aux biotechnologies et aux OGM, ce coton, il se trouve qu'en 1990-96 apparaissent une chenille qui mange les capsules de coton. Donc, cette chenille, on y met les insecticides habituels. Et à cette époque, les insecticides habituels à base de pyrèthre, quelque chose de relativement naturel, deviennent résistantes. Donc, il faut trouver une autre méthode pour résister aux chenilles qui mangent les capsules de coton. Donc, contre les ravageurs, c'est là qu'on recherche quels chimistes peuvent nous aider, et se présentent Monsanto d'un côté et Syngenta de l'autre. Monsanto travaille avec les autorités du Burkina et Monsanto l'emporte. Donc, on fait intervenir au Burkina du coton BT, donc du coton OGM. Et pour cela, la question se pose, mais quelle souche on va utiliser? Donc, ce coton, on utilise dans un premier temps des souches du pays. Les paysans qui cultivent du coton depuis, disons, une centaine d'années, ont mis au point des souches puisqu'on reconnaissait la qualité de leur coton. Et c'est sur ces souches burkinabées qu'on va introduire un gel. Et puis, bien sûr, il y a des protocoles à suivre lorsque, sur le plan international, lorsque l'on introduit des gènes dans des plantes, on doit faire une expérimentation qui va durer sur... on expérimente et puis on voit les retours sur cette expérimentation. Il faut quand même un processus de plusieurs années. Et comme la chenille, elle est, elle, très présente, disons qu'au Burkina, on n'a pas forcément, même s'il y a une agence de biosécurité, eh bien, on n'a pas forcément conservé cette, disons, ces délais, parce qu'on s'est dit, il faut faire vite. On a expérimenté, il y a un laboratoire, et quand les autorités du Burkina disent, eh bien, on va introduire, donner la faveur au coton BT dans les filières cotonnières implantées au Burkina, il est évident que on dit, eh bien, de toute façon, on a expérimenté dans une ferme qui dépend de l'INERA, l'INERA étant l'Institut de recherche agronomique du Burkina, donc tout est bon. Alors j'ai regardé un peu plus quand même ce qui s'était passé, j'ai été voir, c'est en anglais mais ça fait rien, ce qui s'était passé lorsque on a fait ces recherches. Alors j'ai remarqué que les chercheurs, trois chercheurs burkinabés, certes, dans un laboratoire financé par Monsanto. Déjà, là, il y a un petit problème. Mais en plus, dans l'équipe des chercheurs, il y avait un Africain du Sud, donc là, tout va bien, sauf qu'il travaillait pour Monsanto. Et puis, il y avait un autre chercheur qui, lui, était implanté dans le Missouri, à Saint-Louis, dans les usines Monsanto. Donc, c'est cette équipe qui a donné le feu vert pour dire... Ce coton BT, il est très bon, c'est cela qu'on va faire. Donc on a associé une souche africaine dans laquelle on a introduit les gènes qui donc ne devaient produire aucun effet nocif. Et on a dit, eh bien voilà, nous avons expérimenté dans des fermes du Burkina Faso les souches du BT et du coup on va... Dès 2003, et 2000 la crise, donc dès 2003, on va implanter ce coton pour remettre d'aplomb la filière cotonnière au Burkina. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit qu'évidemment, il n'y avait pas de problème. 2003, l'expérimentation. En 2008, on oblige les paysans du Burkina à utiliser cette souche. Alors, le problème là est le suivant, parce qu'après tout, un agriculteur il peut décider d'acheter ses semences ici ou là. Oui, mais lorsqu'on est un agriculteur au Burkina, quelquefois on n'a pas forcément les ressources financières et on a à vendre une production dans le cadre d'une filière qui est contrôlée par l'État, essentiellement la Sofitex. Et la Sofitex fait une avance financière aux paysans. C'est-à-dire que lorsque le paysan vient chercher des semences, s'il peut, il les paye, et puis on lui fournit dans le cadre de la Sofitex à la fois la semence, l'engrais, les herbicides, enfin tout ce qu'il faut pour que la culture se fasse. Et s'il n'a pas d'argent, de toute façon, il a un compte à la Sofitex, puisque c'est la Sofitex qui est le seul vendeur qui intervient sur le marché du Burkina et qui vend à l'extérieur le coton burkinabé. Donc là, on est très dépendant de la Sofitex. Et lorsque des paysans disent « Non, moi je veux du coton conventionnel », on leur dit « Il n'y a pas d'engrais pour vous ». Donc déjà, il y a quelque chose qui est un peu faussé. Il n'empêche qu'il y a des gens, des paysans, qui sont suffisamment indépendants pour pouvoir se fournir de l'engrais ailleurs. Ce qui fait que en 2008, là je regarde, il y a sur les surfaces en coton au Burkina 2% des surfaces qui sont en coton BT, c'est-à-dire en coton bacille thuringienne 6, c'est-à-dire du nom du gène de la bestiole qui est un insecticide connu. En 2013, c'est-à-dire en 5 ans, les surfaces c'est 442 000 hectares. Vous voyez, c'est-à-dire 70% des surfaces qui sont en coton. Ceci, entre autres, parce que les filières sont intégrées. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les paysans? Parce que quand on utilise des semences particulières, il y a quand même une information à donner. Alors, ben, certains, on leur dit, ben voilà, ça c'est la semence. Alors, il y a la semence bleue, c'est le coton BT. La semence qui n'est pas bleue, c'est l'autre. C'est la conventionnelle. Et puis, au début, on la donne. Alors ça, j'ai trouvé que c'était quelque chose qui était une procédure utilisée ici par Monsanto, mais antérieurement, il y a 40 ans, on utilisait la même procédure. Dans un problème d'alimentation, on disait au programme alimentaire mondial, il vous manque du blé, vous donnez du blé à tel pays, et puis en contrepartie, gratuit, c'était gratuit, mais en contrepartie, le jour où vous devriez acheter le blé, vous l'achèterez chez nous. Donc, dans l'immédiat, on a besoin de blé, eh bien, on va signer le papier disant que dans 20 ans, 30 ans ou dans 5 ans, si on en a besoin, on achètera chez celui qui nous l'a donné gratuitement. Eh bien là, ça se passe un peu comme ça. Hein. On est point lié avec Monsanto. Et puis les paysans disent, ben, au début, on nous l'a donné. Et puis après, bien après, il faut acheter les semences. Et on les achète chez Monsanto. Et puis là, on découvre, pour les paysans, c'est là aussi que les choses commencent à se compliquer un peu, là où les semences étaient gratuites, et où vous avez... mais ces semences, elles sont beaucoup plus chères. Parce que le prix de la semence BT, c'est 27 000 francs CFA pour les 30 kilos, alors que le prix de la semence conventionnelle, là je regarde, entre 800 et 3000 francs CFA. 27 800. Mais on explique que, par contre, le gain se fera à propos des insecticides, puisqu'on a, dans les gènes donnés dans le coton OGM, on a mis un insecticide. Donc, là où vous devez traiter 5 ou 6 fois dans le... 6 fois en principe dans la culture conventionnelle, et bien là vous n'aurez à traiter que 2 fois. Donc vous gagnez sur le plan du temps, il y aura moins de travail à faire, moins de passage. On considère 65 jours de travail pour le coton, 73 dans le coton conventionnel. Donc là vous gagnez quand même 8 jours. Bon. Et puis vous gagnez parce que vous n'avez pas les frais d'insecticide. Or les frais d'insecticide, c'est quelque chose d'important puisque dans le coton conventionnel, c'était 40% du prix de revient du coton. À partir du moment du coton BT, puisqu'il n'y a que 2 passages, c'est beaucoup moins. Donc là, effectivement, il y avait un gain. Et puis, on a dit, en plus, on avait dit, puisqu'il n'y a plus d'insectes, vous serez débarrassé des chenilles, vous serez débarrassé des ravageurs, donc il y aura une production qui augmente. Voilà. Ça, c'était le projet. Dans la pratique, les déceptions arrivent vite. Le prix du coton a baissé. Donc là, on s'est dit, ah, comment ça se fait? C'est la concurrence mondiale. Bon. Et puis aussi, est arrivé le fait que, par le biais de ces semences et des contributions à donner à Monsanto, finalement, sur le prix du coton, sur le prix du ventre de coton, 28% va à Monsanto, semences et redevances diverses, 12% à la Sofitex, là que ce soit le coton BT ou l'autre, c'est la même chose, et seulement 60% aux producteurs. Ce qui est encore tout à fait jouable s'il y a l'augmentation prévue de 30 à 50%. On avait dit aux gens de 30 à 50% d'augmentation. Et dans la pratique, c'est pas du tout ça. Et les producteurs se trouvent floués parce que, eh bien, ça n'est pas ça. Alors, ces paysans, d'abord, sont un peu assommés par la nouvelle. Et puis, il y a des paysans producteurs qui se sont dit, mais on va quand même essayer de voir. Donc, sur le terrain, ça me paraît intéressant, sur le terrain, des paysans se sont associés pour dire on va faire une étude. Mais déjà, il y a des paysans qui se sont un peu émus, et donc je vous propose de regarder un petit bout du film, Le coton BT au Burkina Faso, parce que plutôt que de vous raconter les choses, vous allez voir comment le paysan ici s'exprime par rapport à ces questions. Vous voyez, des illusions. Hein, vous voyez tout de suite.
Au départ, le coton BT a suscité de l'espoir chez les producteurs. Mais au fil des années, le coton génétiquement modifié présente des aspects qui amènent les producteurs à se poser de nombreuses questions.
Mais le coton BT, je disais qu'il est précoce, mais pourvu de poids, le coton conventionnel lui dépasse en poids. Quand moi, les pesais, les mêmes quantités qu'on pèse, moi, je trouvais que le conventionnel est plus lourd par rapport au BT. Ça, c'est une remarque. De deux, on a senti que les prix sont à peu près les mêmes par rapport à l'achat du coton.
Les producteurs de coton remarquent aussi dans les champs et de façon générale dans l'environnement des changements. Et ces changements sont intervenus depuis qu'ils cultivent le coton OGM.
J'ai constaté, par exemple, le coton comme ça, si c'est coton BT, tu le sèmes. Depuis que tu as semé le grain là, il va pousser, faire des capsules, et il va donner son produit, il va récolter, et toujours, il n'y a même pas une mouche qui va s'infiltrer dedans. Il n'y a même pas de chenille qui va s'approcher. Donc c'est efficacement des choses. Il y a des produits efficaces qui sont liés à cette plante là pour que ça résiste. Aux chenilles et autres insectes. Maintenant, est-ce que quand on récolte le coton, là, la tige là, ça reste comme ça? Nous, ça nous étonne. Parce qu'avant, quand on récolte le coton conventionnel, les tiges là, les termites là, rongent et puis ça tombe. Et puis, il n'y a pas de problème à ça. Mais une fois que tu as récolté ça là, si c'est pas toi qui es venu casser, piocher bien ce chenille, il ne tombe pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un verre qui a besoin de ça. Donc nous, on a des inquiétudes. Est-ce que les fruits que nous, on récolte ici, là, on en fabrique de l'huile, on fait des tourteaux, on consomme. Est-ce que le grain qui est lié là, est-ce que ça peut nous causer des ennuis par la suite? C'est ce que nous, on a des inquiétudes. Depuis qu'on a commencé les cultures d'OGM, on a senti, bon, pour les premières vagues, pour les premières parties de l'OGM, ça donnait un meilleur rendement, ça on a constaté. Ça donnait un meilleur rendement et il n'y a pas de chenilles, il n'y avait pas d'insectes pour en tout cas ennuyer la plante. Mais au fil du temps, on a constaté que ça régresse, vu son poids, vu le traitement même. On sent que ça régresse, puisqu'il faut apporter deux traitements au BT. Malgré tout ça, la fibre est là. Mais le poids, ça ne prend pas.
Sincèrement dit, entre le coton BT et le coton conventionnel, il y a une grande différence. Moi, j'ai fait le coton BT en 2 ans. Cette année-là, précisément, j'ai fait 6 hectares, mais j'ai 10 tonnes de 136 dans les 6 hectares-là. Et en calculant, j'ai à peu près 1,7 tonne à l'hectare. Donc, je vois que vraiment, il y a une grande différence. Et je suis vraiment content du conventionnel. Sincèrement, nous, on voit que le BT, là, c'est pas la peine. Même si ça réduit les temps de travail, nous, on va à tout avec. Bon, c'est pas bon. Les temps vont réduire et puis tu n'as rien. Ça aussi, c'est pas la peine.
Ce sont autant de difficultés du coton OGM qui ne peuvent plus être cachées. Du reste, au cours d'une rencontre suivie de visite dans les champs entre les responsables de l'Institut de l'environnement et de la recherche agricole du Burkina et les représentants de la ferme Monsanto, il ressort que le coton BT n'a pas atteint les objectifs de même productivité qui lui étaient assignés. La solution envisagée par les chercheurs burkinabés, le recours au glyphosate.
Il est question, en plus du gène BT, que nous appelons Bolgar 2, qui était déjà dans le cotonnier, il y a un autre gène qu'on va ajouter dans le cotonnier qui va lui permettre d'être traité avec un herbicide total, qui est le glyphosate. Mais l'herbicide va tuer toutes les mauvaises herbes, mais sans tuer le cotonnier.
Les propriétés herbicides du glyphosate ont été brevetées par Monsanto dans les années 70. Et le Roundup devient un succès commercial. Comme le glyphosate est connu pour tuer les plantes, il peut avoir des conséquences néfastes sur la vie sauvage, réduit la biodiversité sur les terres agricoles et détruit les réserves de nourriture pour les oiseaux et les insectes. Cela fait plus de 10 ans que le coton génétiquement modifié est cultivé au Burkina Faso. Le gène BT n'a pas réussi à accroître la productivité du bol gazeux dans lequel il est introduit pour résister à certains ravageurs. Le coton burkinabé, qui était fort apprécié sur le marché international, a perdu de sa qualité. Et le Burkina Faso ne trouve plus de clients pour son coton OGM qui représente 70% de la production nationale. Les producteurs sont ainsi désemparés. D'autres cultures comme le sorgho BT et le muébé BT font l'objet d'expérimentations par l'INERA. Il est évident que ces spéculations sont programmées pour connaître le même sort que le coton BT. Une moisson de désillusion.
Bien, alors donc là déjà on voit dans le film, je pense que c'est ça peut. Après ma jolie voix, n'est-ce pas? Vous avez un extrait de film qui montre justement combien sont importantes les désillusions après le coton BT. Et puis Monsanto, vous avez pu repérer un certain nombre de choses. Monsanto découvre qu'effectivement, alors la première réaction c'est de dire oui, mais vous ne suivez pas exactement les protocoles. Bon, et puis la deuxième, et puis devant l'accumulation de, disons, de résultats négatifs, Monsanto est obligé de repérer, eh bien, attendez, on va renforcer, hein, et à côté, dans le BT, on va éventuellement ajouter un herbicide, et bon, ben, le glyphosate. Donc vous voyez, évidemment, comment la problématique s'enclenche. Il y a peut-être des remarques à faire sur le film avant de poursuivre un peu, puis après on tâchera de discuter un peu de ce que vous avez vu et ce qu'on peut dire.
Moi, il n'y a aucun chercheur qui a cherché justement à faire une étude sur des prédateurs de la chenille.
Si, bien sûr.
Et alors?
Et pour les prédateurs de la chenille, on avait trouvé justement le Bacillus thuringiensis, là, qui est le BT, était le prédateur de la chenille. Et ce prédateur de la chenille.
Il empêchait, mais prédateur au sens.
Venait tuer la chenille. Si, auparavant, on a essayé, mais il se trouve qu'on a eu. On a eu ensuite d'autres ravageurs, et apparemment, au Burkina Faso, on n'a pas fait des recherches dans ce sens. Donc effectivement, on n'a pas confié au prédateur. Alors, qui va les faire? Mais je crois qu'il y a une recherche des paysans, et ça me paraît intéressant. Vous avez vu qu'il y avait la Copagène, par exemple. Il y a des laboratoires au Burkina qui n'étaient pas trop bien agréés par Monsanto, qui essayaient d'être indépendants, et notamment... La COPAGEN, c'est la Coalition pour la protection du patrimoine génétique africain, et en fait, moi, je me suis intéressée à la question parce que la COPAGEN était financée par le CCFD, Comité catholique contre la faim et pour le développement intersolidaire, dont je suis militante. Voilà. Donc, je me suis dit, tiens, mais enfin, je suis intéressée à cette question. Et la COPAGEN a mis au travail, en fait, pour 200 paysans qui n'étaient pas liés à Monsanto, qui étaient indépendants et qui ont relevé pendant plusieurs années les résultats. L'expérience a été menée de façon très scientifique. D'abord, on a demandé à ces paysans producteurs d'abord de séparer bien clairement coton conventionnel et coton BT, parce qu'ils utilisaient l'un et l'autre. D'avoir justement des distances suffisamment importantes pour que l'un ne vienne pas chez l'autre. Ensuite, on a fait l'expérimentation dans un ensemble de zones géographiques qui étaient assez homogènes. Parce qu'autrement, on peut dire, et c'est parce qu'ici c'est très humide, alors qu'ici ça ne l'est pas. Donc, un ensemble de territoires assez homogènes. Et enfin, pour l'un comme pour l'autre, il y a les mêmes travaux, c'est-à-dire qu'il y a préparé le sol, alors dans certains cas sous couvert végétal, ça justement sous l'influence des agroécologistes, préparer le sol, ou labourer, ou griffer, les semis, le sarclage, lorsque la plante lève, des mariages, puisque dans certains cas il faut les espacer suffisamment pour qu'elles aient leur espace pour s'alimenter. Donc même processus de production, et ces paysans devaient consigner de façon très régulière ce qui se passait sur leur champ en coton bété et en coton conventionnel. Et d'autre part, ces paysans se soutenaient entre eux, parce qu'effectivement, ils n'étaient pas bien vus du monde Monsanto, OGM, parce que au niveau, vous avez entendu le paysan qui disait « on est payé au poids du coton », c'est-à-dire que la graine de coton récoltée, le paysan est payé au poids. Et après, le travail se fait ailleurs, mais le travail qui se fait ailleurs et la plus-value apportée ne vient pas aux paysans, elle vient à ceux qui viennent ensuite. Et ceux qui viennent ensuite, c'était la Sofitec, c'était les hauts fonctionnaires, et il y a cette espèce de... alors, moi je dis collusion, c'est un peu partisan de dire collusion, mais il y a cette espèce, j'assume, collusion entre les autorités politiques qui défendaient le coton bété en disant « mais ce coton, tout le monde a été informé ». En fait, n'était informé que ce qui était en haut de la filière, si vous voulez, en haut de la pile, en haut de la société, et pas les petits paysans. D'autre part, Monsanto lui-même disait que c'était important que le Burkina Faso était pour lui un champ d'expérimentation intéressant, parce que justement, Blaise Compaoré, qui était au pouvoir à ce moment-là, avait un système autoritaire qui faisait qu'on décidait en haut du coton et que tout le monde suivait, et que l'opposition était éliminée. Donc il y avait un ensemble de choses qui faisaient que Monsanto trouvait que c'était intéressant d'expérimenter au Burkina Faso de façon en grandeur nature, parce que justement il y avait des conditions. Les laboratoires étaient plus ou moins contrôlés, le monde politique était favorable, enfin voilà. Bon. Pardon ?
La quantité est moindre.
Oui.
Est-ce que la quantité aussi ?
La quantité.
En fonction de la même quantité semée, est-ce qu'il y avait moins ?
Alors en plus, c'est ce que le paysan vous a dit tout à l'heure. Dans les premières années, c'était très bien, et peu à peu, il y a les récoltes diminuent, et la rentabilité, alors ça, c'est effectivement ce que je voulais en venir, effectivement, la rentabilité diminuait, et ce qui fait que les résultats n'étaient pas au rendez-vous, puisque 1 kg de coton bété, ça revenait à 120 francs CFA, 1 kg de coton conventionnel, 91 francs CFA. Et vous avez entendu un cultivateur qui disait... Bon, eh bien moi, maintenant, je mets du conventionnel. D'accord, je travaille un peu plus longtemps, mais je m'y retrouve. Il affirme, je suis content du coton bété, du coton conventionnel que je vais poursuivre. Excusez-moi.
Voilà. Apparemment, il n'était pas vendable à la fin. Là.
Pardon ?
Il se vendait beaucoup moins, le coton se vendait plus.
Le coton se vendait moins, et alors ? C'est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'effectivement, comment on arrive à évincer Monsanto. Et alors, c'est maintenant la partie que je vais aborder dans une dernière partie, si vous voulez. Monsanto s'est trouvé évincé, d'une part parce que, sous l'effet de la Copagen, je vous ai dit, hein, cette association de paysans, où ce sont des paysans chercheurs, producteurs, qui ont suivi un protocole qui a été utilisé par les paysans indiens qui eux-mêmes ont été confrontés au même problème. Seulement les paysans indiens, pour eux, la situation, ça a été tellement dégradée que les paysans indiens, beaucoup se sont suicidés parce qu'ils étaient ruinés, parce que bon. Mais le protocole qui a été utilisé par les paysans indiens a été repris par les paysans du Burkina, et de façon très rigoureuse. Et il se trouve, alors là aussi, pour que, de fait, devant la réalité des faits, devant les paysans qui se désengageaient dans la culture du coton, la Sofitec s'est trouvée, elle aussi, en difficulté. C'est-à-dire que lorsque les intermédiaires et les sociétés cotonnières du Burkina se sont trouvées en difficulté, là, il y a des hauts fonctionnaires qui ont commencé à dire « Ah, mais là, ça ne va plus ». La Sofitec elle, a aussi dit « Mais de fait, Monsanto, ça ne va plus ». Donc, il y a eu là une espèce de, si vous voulez, le front anti-OGM, ça a pu se structurer, et il a été d'autant mieux structuré que Blaise Compaoré a été renversé, et que le monsieur qui imposait, le Blaise Compaoré qui imposait son système, finalement étant renversé, cette coalition entre les paysans-chercheurs, les partisans de l'agroécologie, les parlementaires qui ne tiraient plus les finances de la vente du coton, la crise du coton elle-même qui fait que l'argent ne rentre plus, tout ça a amené le gouvernement à dire bon ben c'est fini, il faut jeter l'éponge. Et même s'il y a eu des rencontres avec Monsanto, ils ont fini par dire c'est fini, Monsanto c'est un échec, donc ils ont donné 3 ans, alors nous allons diminuer le coton BT, et même il y a eu un retrait définitif du coton BT décidé en 2016. Ce qui fait que pour la campagne 2017-2018, j'ai été voir, le financement a été assuré par un consortium de banques du pays qui ont acheté des semences aux paysans producteurs, donc on revient aux semences produites par les paysans producteurs pour la campagne de 2018 et bien sûr pour la campagne de 2017-2018 et a fortiori celle de l'année suivante. Et on va entendre justement, parce que les paysans avaient commencé à réagir individuellement, pour finir, on va regarder ce paysan qui nous explique son aventure cotonnière, qui termine très vite et il nous explique pourquoi.
Moi, je m'appelle Lino Nesmé. Je suis producteur agriculteur. Et dans le bien de l'ENA, ça fait 54 semaines du rôle de la SOC.
Voilà, ça c'est le jardin, ici. Et ça c'est du gombo, du piment, de la tomate, des aubergines et les manioc. Il n'y a pas beaucoup de manioc. Ici là, ce que je vous dis, ça c'est le nombre de paysans, c'est 2 qui font ça. Hein.
Bon, je m'en sors bien parce que vous voyez que dans mon département, les gens s'adonnent trop à l'attitude du coton, si bien qu'il leur en manque beaucoup de choses pour se nourrir.
Oui, j'étais du coton, aussi. C'est bien. Le premier producteur du coton dans le département. Alors j'en ai fait jusqu'à 5 ans. Mais après une analyse, après un constat, j'ai trouvé que le coton était pas rentable.
Par rapport à la racine aussi, le temps mis, les labours, les semis, la récolte, ce qu'on met, sans j'ai fait cette évaluation, je me dis qu'il y a une grande différence.
Ça, c'est le champ de racine qui fait 1 hectare. C'est ma quantité de rente. Voilà. Ça se voit très bien. Même en octobre, déjà, vous avez la tine à 1000 francs. Non, du corticain. Cependant, vous pouvez même battre votre tine de maïs à 1000 francs. Ouais, non. Pourtant, la production du maïs, là, ça coûte beaucoup plus cher que ça. Tu aurais mis des engrais, herbicides. Et pas mal de ceux qui rentrent dans la culture du maïs. Tandis qu'ici, là, qu'est-ce que vous avez? Votre charrie et puis vos semences et tout. Si je dois faire du maïs, j'ai payé de l'engrais juste pour 1 hectare de maïs. Chaque année, je paye mon engrais pour mon maïs. Je ne sais pas embêter. Qui est pas bonne saison, pas mauvaise saison, je ne sais pas embêter. Le plus que je vais, ce sera mon engrais. Parce que c'est déjà pour que je finance mes engrais. Je ne fais pas du coton. Mais, une plante encore qui permet de la rotation, le soja par exemple, ça enrichit le sol. Et c'est une plante qui est très rentable. Vous n'avez pas de traitement, vous n'avez pas à mettre des engrais si vous voulez.
Et puis, il n'y a pas d'insecticide. Vous ne traitez pas, il se produit très bien. Et il y a des gens, il y a des transformatrices qui demandent vraiment le soja. Même si, il y a des gens qui me disent que même si je fais 300 tonnes de soja, ils vont le faire. Fin novembre, j'ai fini tous les quotas. J'ai tout le temps de m'occuper de mes maisons, de m'occuper de mes poulaillers, de mes portes, de ces choses-là. C'est pendant les gens sont dans la récolte du coton, que le coton, hein. Et jusqu'en janvier, ils sont déjà. Une fois récoltés, ils se mettent à les ramasser et l'amener au marché coton. Et ils vont attacher, ils vont charger les camions, mais ils se trouvent en masse. Je ne peux même pas te faire une maisonnette pour dire, allez, promenez-vous dans les champs, vous allez voir comment les paysans vont. Parce que le temps de coton a pris tout ça.
Les paysans comme les Saint-Louis Legault sont encore rares. En revanche, les organisations indépendantes de paysans n'ont pas attendu la crise pour critiquer le tout coton des autorités.
Pour les producteurs, acheter la nourriture qu'ils peuvent produire, c'est quand même lui poser beaucoup de problèmes. Le producteur s'attend d'abord à pouvoir se nourrir au sein de son exploitation familiale et à produire et nourrir la population nationale. D'abord, ça, c'est assez noble comme objectif. Mais si on a glissé dans des concepts de sécurité alimentaire qui peut privilégier l'exploitation, là, ça ne nous arrange pas. Et on sera toujours dans le même cercle de vicieux où si les cours mondiaux montent, ben on descend un grand coup à notre niveau ici.
La souveraineté alimentaire, qui a été, c'est une définition en fait qui est connue, c'est-à-dire que c'est le droit des peuples à produire pour se nourrir et à se nourrir avec leur production et le droit aussi de protéger leur marché agricole. C'est à peu près ça, donc, la souveraineté alimentaire, qui s'oppose un peu à la sécurité alimentaire, parce que dans la sécurité alimentaire, telle que ça a été développée, l'alimentation peut être assurée par les importations. Alors qu'ici, dans le cadre de la souveraineté alimentaire, on estime que l'alimentation doit se faire à partir de la production régionale.
Mais je ne veux pas faire de l'opposition pour de l'opposition, mais je compare deux situations. Je ne vois pas ce qui a été fait au niveau des petits vivriers au même titre que pour le coton. Tant et si bien qu'aujourd'hui, tous les problèmes au niveau des petits vivriers restent globaux. Problème d'approvisionnement en intrant, problème d'organisation du marché, d'accès au marché, problème même de la gestion même de la qualité, etc., etc., etc.
Bon, là vous entendez donc le paysan lui-même qui dit bon ben moi je faisais du coton, j'étais le premier producteur de mon département et maintenant j'ai abandonné et je vis mieux puisque je produis une culture de rente, l'arachide, je suis maître de mes finances, même si je ne suis pas endetté. Vous voyez aussi cette, alors que dans le système cotonnier et dans le système Monsanto, il y avait cette mainmise sur la population qui fait qu'elle est endettée. Donc là, il y a une réflexion qui me paraissait aussi intéressante, c'est de voir comment les paysans producteurs ont mesuré eux-mêmes, ont travaillé eux-mêmes. Et ça me paraît aussi intéressant, c'est que finalement, quelquefois, on s'en remet uniquement aux experts, mais les experts, quelquefois, bien, ils sont liés au laboratoire qui les finance. Ou, bref, je pense que c'est indispensable. Là, l'expertise, elle est indispensable, mais en même temps, les citoyens, les personnes engagées, elles ont leur mot à dire. Et là, vraiment, ces paysans associés qui décident, qui mettent en évidence que le coton BT ne remplit pas sa fonction, est mauvais. En plus, alors là, il l'exprime de façon intéressante, ça me prend mon temps. Lui, il dit, mais en ayant abandonné le coton, j'ai du temps pour moi, pour réparer ma maison, pour etc. Je crois que là aussi, il y a là toute une réflexion qui me paraissait intéressante et qui nous interroge aussi, parce que quelquefois, on confie trop à des experts, on s'aperçoit que les experts en relation avec des gens qui, de par leur situation, parce qu'ils ont pieds et poings liés avec ceux qui veulent vous vendre ici une autoroute, ailleurs des engrais, ailleurs des produits OGM. Le citoyen, il a son mot à dire. Et là aussi, ça me paraît intéressant de voir que ce sont les citoyens eux-mêmes associés qui ont finalement fait pression et abouti à ce que le gouvernement dise, on retire. Et non seulement Monsanto s'est retiré, mais en plus, la Sofitex a demandé à Monsanto un dédommagement de, alors il faut que je ne dise pas de bêtises, 50 milliards de francs CFA, c'est-à-dire 75 millions d'euros, qui ne sont toujours pas versés, je dois dire. Le tribunal doit donner son avis. Par contre, devant le tribunal citoyen de La Haye, Monsanto a été accusé de l'agrobusiness juste et responsable de violer les droits humains et l'environnement. Bon, mais voilà.
Il y a un élément qui a été aussi important, c'est qu'ils n'avaient plus la gestion de leurs graines. Et là-bas, d'avoir une semence, ça c'était vraiment quelque chose qu'au niveau administratif et tout, c'est vraiment très important d'avoir la maîtrise de sa semence. Et tandis que là, ils devaient acheter à chaque fois la semence.
Les semences BT, voilà. Et alors, c'est. Disons la COPAGEN, puisque c'est l'association qui lutte pour le maintien du patrimoine génétique, est très importante pour cela, et c'est intéressant de voir que pour la dernière campagne, les banques se sont organisées avec la Sofitex pour acheter des semences aux paysans, et ces semences paysannes ont été redistribuées aux 15 usines d'égrenage pour les cultures. Pour les cultures. Bon, bien.
Alors, est-ce qu'on trouve du coton burkinabé sur nos marchés? Je crois que ça existe, hein, simplement, il faut chercher, il ne faut pas se laisser guider uniquement par le prix des.
Voilà. Le beau coton blanc avec des longues fibres. Ça, c'est. L'avenir le dira, mais je crois que c'est intéressant. Enfin, en tout cas, cet exemple me disait, nous, citoyens, on a notre mot à dire, quels que soient les. Enfin, parce que quelque part, on est quand même des consommateurs, si j'ose dire. Et puis, je pense que m'a proposé de rajouter du glyphosate, alors comme il dit, alors que déjà. Dans les pays du Nord, c'est interdit. Enfin, je crois que là, il y a quelque chose aussi qui est une profonde injustice.
Ils essayent de
chercher. C'est vrai aussi en Amérique latine, etc. Hein, l'inflation du glyphosate, des insecticides.
C'est vrai que c'est en Amérique latine, et c'est vrai aussi que en Amérique latine, il y a des paysans qui essaient de s'organiser aussi, notamment dans la Confédération, via Campesina. Leur mouvement, c'est Via Campesina, qui associe les paysans d'Afrique à des paysans d'Amérique latine, à des paysans indiens, pour.
Ils ont eu le même problème en Amérique.
Parce qu'ils ont les mêmes problèmes. Problèmes sur les semences et problèmes sur s'émanciper des. Oui.
Mais en France même aussi, on a un peu le même problème. Hein.
C'est ce que me disaient les agriculteurs de la Confédération Paysanne. Je cite mes sources.
Oui, puisqu'on veut faire des semences qui ne sont pas reproductives, qu'il faut racheter chaque année, etc.
Mais avouez que ici, c'est plus. Enfin, je trouve que c'est plus facile de raisonner à partir d'un pays complètement extérieur, et puis après. À chacun de se dire, mais voyons, est-ce qu'on n'a pas quelque part les mêmes problèmes? Et je crois que les citoyens, il y a des semenciers qui justement conservent des semences anciennes, qui travaillent sur le maintien d'un patrimoine génétique concernant les fruits, le blé, enfin, etc. Je crois que c'est important de fait.
Et vous savez, la Syngenta vient de s'installer à Chartres.
C'est
Syngenta vient de s'installer à Chartres. Des semenciers.
Ah oui?
Pas forcément. Je pense que Syngenta ou Monsanto, c'est un peu le même. Ce sont les mêmes problèmes.
Et les mêmes financiers peut-être.
Les mêmes problèmes, les mêmes financiers que peut-être il appartient aux citoyens là, d'ouvrir les yeux. Syngenta avait été récusé au Burkina, disons, dès l'expérimentation de 2003.
Par contre, on a vu un paysan quand même qui est dans une région bien libre. Il y a un beau bout de la soude, il y a de l'eau, alors que oui. la grande partie du Burkina, c'est quand même...
C'est de fait. Alors là, les extraits de films sont tirés du film Noir Coton. Vous pouvez aller sur Internet et retrouver ces films. Noir Coton et l'autre, c'est le coton bété, la moisson des désillusions. Même chose. C'est aussi vous pouvez trouver la totalité du film. Le coton bété.
Coton bété, moisson des désillusions.
Moisson des désillusions.
Et c'est vrai qu'en Russie, la mer d'Aral, etc., est en partie asséchée à cause de l'arrosage.
Pour le coton.
Mais alors ça quand on, enfin, le cire d'Aria et l'amour d'Aria ont un flux qui est abondamment rétréci à cause du pompage qui se fait dans les fleuves. Dans les fleuves même, c'est pas simplement la mer,
les fleuves. Il n'est plus alimenté.
Les fleuves ne peuvent plus alimenter la mer puisque l'eau est pompée. Effectivement.
Mais en fait, c'est un problème mondial.
Heureusement, ça se présente aussi aux États-Unis. Donc peut-être que les mentalités évolueront aussi du côté de ceux qui ont le pouvoir.
De mettre des horloges, il
vous
reste quelques minutes, 2-3 minutes.
Est-ce que vous voulez voir? Tu veux qu'on fasse le dernier petit extrait d'une minute sur les femmes?
Non, pas nécessairement. Il y a peut-être des remarques à faire ou des...
Donc nous portons sur nous du coton OGM. Donc,
vraisemblablement.
Donc, si ça se trouve un jour, il y aura un impact sur notre santé.
Peut-être.
Il y a des espérer peut-être pas à travers la fibre, mais. Pédicate. Mais.
Donc, il y en a déjà parce que les produits se répandent. Donc, vont à des endroits où ils n'étaient pas. C'était pas prévu.
C'est ici, oui.
Bon. Mais bon, je vous dis merci. Merci.